Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous choisir sur votre radio, la nouvelle génération. Merci surtout pour cette confiance sans cesse renouvelée à la 93.5. Les prochaines élections sénatoriales n'auront plus lieu le 2 février prochain comme prévu par le gouvernement. Elles sont reportées à une date ultérieure. La décision a été prise hier par le gouvernement. Réuni en conseil des ministres, le gouvernement a ainsi adopté un décret portant sur le réaménagement du calendrier électorale et le report de la date du scrutin. Selon les informations, cette adoption du texte fait suite à la demande formulée quelques jours plus tôt par le cadre permanent de concertation CPC pour un report de la date limite de dépôt des candidatures et de la date du scrutin. Ceci en vue de permettre aux acteurs politiques de mieux s'organiser pour participer à ces élections qui se tiennent pour la première fois dans le pays. La proposition a été acceptée par le Conseil des ministres après consultation de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le nouveau calendrier électoral sera communiqué dans les jours à venir, insistons. Alors, nous parlerons du sujet dans cette émission Club de la presse de ce vendredi 27 décembre 2024. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité tel qu'évoqué alors par des journaux parus ce matin. Merci de nous choisir. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vitok Betomega est à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Jérôme Akoucha. Je suis Pascal Lossou au micro. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Vous qui nous suivez partout au Togo, grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekho, Radio La Paix à Takpame, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, nous sommes à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous avez ce privilège aussi de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Le Club de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays et aussi alors du continent africain, mais aussi du monde entier. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi et aussi des invités. Nous commençons cette émission par des invités qui sont en studio avec moi. Alors, il y a depuis un temps des vidéos qui circulent alors sur les réseaux sociaux faisant allusion à une vente aux enchères des véhicules organisé par l'OTR, une information qui a été démentie entre-temps par l'OTR, le sommet même d'ailleurs de l'OTR. Mais pour en parler, puisqu'il y a beaucoup de choses quand même qui s'en sont suivies, et donc pour en parler, nous avons en studio avec nous M. Konlani, compatible. M. Konlani, bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous êtes directeur de la communication et des services des usagers à l'OTR, c'est bien ça?
Exactement.
D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais tout de suite, depuis quelques jours, circulent sur les réseaux sociaux et de façon insistante des messages appelant le public à s'inscrire contre versement d'une somme d'argent pour être éligible à une vente aux enchères que l'OTR organiserait. Alors, pouvez-vous nous en parler, monsieur le directeur?
Merci Pascal et bonjour à nos auditeurs et à nos partenaires contribuables. Vous avez les salutations du commissaire général de l'Office togolais des recettes. Eh bien, l'actualité nous enseigne que l'Office togolais des recettes fait l'objet de plusieurs attaques depuis un moment. On ne sait dans quel intérêt, où des messages de tout genre sont véhiculés au nom de l'Office togolais des recettes, soit par messagerie directe, où on vous dit « prier, rappeler, c'est le cadastre, c'est pour vos dossiers ». Mais ces derniers temps, c'est plus des messages qui incitent des gens à s'inscrire via des numéros WhatsApp moyennant des sommes d'argent pour participer à de prétendues ventes aux enchères. Alors nous venons ici porter des clarifications puisque nous avons déjà envoyé plusieurs démentis, plusieurs communiqués, mais nous assistons à vraiment la recrudescence et que ces messages deviennent de plus en plus récurrents. Alors, de quoi s'agit-il? Lorsqu'on parle d'une vente aux enchères, c'est une procédure qui est réglementée par le code des douanes, où à un moment donné, il y a des marchandises qui sont appelées à être vendues suivant une procédure donnée. Et c'est suivant une autorisation du tribunal. et c'est le commissaire priseur qui est l'agent qui est chargé d'effectuer ou de superviser les opérations de vente aux enchères. Et à chaque fois qu'il y a vente aux enchères à l'OTR, il y a toujours des annonces sur nos canaux officiels. Donc, c'est avec grande surprise et que nous assistons à ces messages qui sont de nature à ternir d'abord l'image de l'institution et en même temps spolier la paisible population qui ne cherche qu'à aller à la bonne information. C'est pour ça que nous sommes là ici pour démentir formellement toutes ces vidéos qui circulent, tous ces messages, ce n'est que l'œuvre des arnaqueurs. Et le commissaire général a pris déjà des mesures pour que la rigueur de la loi soit appliquée à ces genres de personnes.
Monsieur le directeur, c'est vrai que ces derniers temps, on retrouve vraiment ces vidéos sur les réseaux sociaux et aussi votre démenti, on l'a vu. Mais par après, on a vu quand même qu'il y a des canaux officiels. Quand vous prenez même d'ailleurs le journal officiel, le journal peut-être alors de la télévision nationale, on a vu même d'ailleurs une vidéo qui a circulé comme cela où une présentatrice alors de la TVT lisait ce communiqué à l'antenne, donc ça aussi c'est du faux.
Donc je vous dis, monsieur Pascal, nous n'avons envoyé aucun communiqué à la TVT. Et vous savez, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de montages qui sont possibles. Et je sais que les autorités de la TVT sont déjà informées, avec la grande surprise qu'ils ont aussi découvert ces éléments-là, et qu'ils sont en train de travailler pour traquer ces genres de personnes-là par les voies légales. Et autre mesure, les comptes officiels de l'office sont en train d'être certifiés, que ce soit le compte TikTok, le compte Facebook, Instagram de l'Office Ogolais des Recettes et du commissaire général sont en train d'être certifiés pour parer à ces genres de situations malheureuses.
Alors finalement, on comprend que aujourd'hui les arnaqueurs utilisent alors des moyens sophistiqués qui sont difficiles même à démasquer. Si vous avez un message à l'endroit de la population, comment nous en tant que population nous pouvons arriver à démasquer cela ou à savoir le vrai du faux?
Ok, merci Pascal. Je pense que le vrai message à l'endroit de la population, c'est d'inviter tout le monde à se fier aux canaux officiels de messagerie de l'Office Ogolais des Recettes. Lorsque nous avons des communiqués, ces communiqués sont signés par le commissaire général et envoyés par voie officielle à la télévision nationale, à nos partenaires, les canaux de presse, les journalistes. C'est l'occasion de vous remercier au passage pour tout le boulot que vous faites. Et nous insistons que nous ne recevons aucun paiement par T-Money ou par Yas maintenant, par Flouze, par quelque opération, dans quelque opération que nous délivrons ou que nous menons au niveau de l'Office Ogolais, que ce soit au niveau du cadastre, que ce soit au niveau des impôts et taxes, il n'y a pas de paiement par T-Money. Il faut que la population soit suffisamment informée de ce genre de jeu. Et nous avons même des numéros verts pour dénoncer ce genre de situation. Donc, c'est l'occasion d'inviter la population à plus de vigilance et à chaque fois que de besoin de se rapprocher de nos services. Nous avons fait l'effort d'avoir sur toute l'étendue du territoire des services de l'OTR qui se sont rapprochés des citoyens. C'est l'occasion d'aller à la bonne information, d'écouter les journalistes qui font déjà un grand travail de communication et nos pages de réseau sont en train d'être certifiées, comme je l'ai dit, et la bonne information, c'est celle qui vient des canaux officiels de l'Office Ogolais des Recettes.
Monsieur le directeur, si vous avez un mot pour clôturer cet entretien, qu'est-ce que vous allez dire aux populations?
Alors, aux populations, c'est d'abord de les appeler à plus de vigilance, de les remercier pour toute la collaboration, parce que malgré ces gens de communiquer qui ne viennent pas de l'Office du Togolais des Recettes, des gens font l'effort de venir vers nous pour avoir la bonne information. Nous les remercions. Et à tous nos partenaires de continuer par véhiculer ce message jusqu'au Togo profond, dans le Togo profond, pour que nos concitoyens sachent que l'Office du Togolais des Recettes aujourd'hui, c'est une institution qui est au service de l'État et tout ce que nous faisons, c'est pour l'État et nous n'avons pas l'intention d'aller spolier la population par des messages ou se rendre complice de tout ce que les arnaqueurs font aujourd'hui. Mais j'insiste que le commissaire général a déjà pris toutes les mesures pour que la rigueur de la loi soit appliquée à ces bandits-là.
Et que surtout ces bandits, tels que vous les appelez, soient traqués et pour que du moins ça ne continue plus. C'est aussi important. Merci beaucoup, monsieur le directeur, d'être passé dans cette émission.
Merci, c'est plutôt moi.
Je rappelle que vous êtes monsieur Conlani Kampatib, directeur de la communication et des services des usagers à l'Office togolais des recettes. Merci d'être
merci passé. Pascal, merci infiniment.
Voilà. Sans transition, nous recevons d'autres invités, bien sûr, pour le compte alors de cette émission de ce vendredi. Il y a Monsieur Aïka Foli Kofi qui est avec nous. Monsieur Aïka, bonjour.
Bonjour, Monsieur Pascal.
Vous êtes médiateur, conciliateur de la maison de justice de Barida, c'est bien ça?
C'est bien ça.
D'accord. Et à vos côtés, il y a aussi Madame Toyi Ablavi Dimefa, c'est bien ça? D'accord. Dimena. Oui. Voilà. Dimena. J'espère que vous allez bien.
Je vais bien.
Vous êtes assistante juriste à la maison de justice de Barida. Et Monsieur Kofi ou Monsieur Aïka, j'allais dire, quand on parle de maison de justice, qu'est-ce que c'est?
Par définition, une maison de justice est une structure non juridictionnelle. Non juridictionnelle parce qu'elle ne rend pas des décisions. Donc c'est une justice de proximité, rapide, confidentielle et exonérée de toute tasse.
C'est là une définition très simple alors de la maison de justice. Ok. Madame Toyi, quand on prend les modes de saisine alors d'une maison de justice, quels sont ces modes?
Nous avons deux modes. Nous sommes saisis par écrit ou par voie orale. Donc, on peut nous adresser une demande de médiation écrite ou par voie orale et nous-mêmes nous chargeons de consigner la requête.
D'accord. Monsieur Aïka, comment on peut saisir un juge d'instruction?
Il y a deux modes de saisine d'un juge d'instruction. Il peut s'agir d'un réquisitoire introductif d'instance émanant du procureur de la République ou soit de l'un de ses substituts. Bon, le deuxième mode, c'est la plainte avec constitution de partie civile. Un tiers qui se sent lésé dans ses droits peut adresser une plainte avec constitution de partie civile au juge d'instruction et la procédure sera déclenchée.
Madame Toyi, quand on parle alors de l'instruction dans les maisons alors de justice, comment cela se déroule?
Oui, en fait, au niveau des maisons de justice, parler d'instruction n'est pas aussi, tout comme au niveau d'une juridiction.
Vous avez une autre appellation pour ça?
Oui, en fait, c'est une procédure. Oui. Oui, la procédure de traitement des dossiers dans les maisons de justice. C'est comme ça, ça se fait passer. Dès que nous sommes saisis et que la requête est consignée, il y a le médiateur qui décide d'une opportunité d'un rendez-vous pour la confrontation des parties. Donc, c'est le jour de l'audience maintenant que les deux parties exposent les faits. Et sur la base de cela maintenant, nous les aidons à trouver une solution à l'amiable à leurs problèmes. Donc, c'est pas tout comme au tribunal où le juge d'instruction se charge d'instruire le dossier jusqu'à ce que ça n'aboutisse. Donc, chez nous, automatiquement saisi, la procédure sur son cours sans passer par quelque juge que ce soit, puisqu'il n'y a même pas de juge chez nous. Il y a
puisqu'on que le parle de médiation et de conciliation.
Oui, il n'y a que le médiateur et l'assistant juriste, il n'y a pas de juge chez nous.
Mais comme ça, avec cette procédure, est-ce qu'on arrive justement à trouver gain de cause?
Bien sûr, parce que c'est une procédure de médiation et de conciliation. Lorsque les parties ne parviennent pas elles-mêmes à un accord, il y a la possibilité donnée au médiateur de leur proposer des pistes de solutions qui ne s'imposent pas à elle, quitte à elle d'accepter que oui, nous sommes d'accord de la proposition faite par le médiateur.
D'accord, monsieur Aïka veut ajouter quelque chose.
Oui. Pour l'instruction dans les maisons de justice, lorsque nous sommes saisis, nous devons chercher à savoir si nous sommes compétents pour connaître de cette affaire. Alors, à l'analyse de la requête, tu dois savoir immédiatement que ce cas-là, c'est un cas simple. Et tu procèdes à l'audiencement immédiat du dossier en invitant les parties à se présenter à l'audience à une date donnée. Mais quant à l'instruction même, lorsque le cas est un peu complexe, donc il y a une instruction préalable. Donc on invite les parties séparément, à des jours différents aussi. Alors, dans ces auditions séparées, Le médiateur connaît déjà le point de désaccord. Donc, ceci étant, il les invite à une audience contradictoire et il va recommencer la médiation proprement dite pour amener les parties à s'entendre.
Alors, vous, en tant que médiateur, et quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent dans ces cas précis, c'est-à-dire avant d'amener les deux parties à s'entendre?
Comme l'assistante vient de le dire, nous avons en médiation, nous faisons feu de tout bois pour amener les parties à s'accorder, à s'entendre, à provoquer le dialogue entre elles. Et la solution au problème viendra d'elle-même. Mais au cas contraire, s'ils n'arrivent pas à s'entendre au sujet de vos multiples conseils, vous pouvez glisser sur le terrain de la conciliation. Là, on leur fait des propositions, mais ces propositions-là ne s'imposent pas à elles.
Monsieur, c'est vrai que tout de suite, vous avez parlé de l'instruction préalable à la médiation et elle-même, c'est vrai, mais c'est quoi son utilité?
Son utilité, c'est que déjà, ça vous facilite la tâche au moment de la médiation proprement dite. Donc, l'instruction déblaye le terrain avant la médiation proprement dite.
Alors, oui, mais revenons maintenant à la maison de justice. Et quelle est cette mission assignée à la maison de justice, Madame Matoyi?
D'accord. Ok, la maison de justice a pour mission d'accueillir les populations locales et leur fournir des informations sur leurs droits et devoirs. Elle a aussi pour mission d'organiser des activités de médiation et de conciliation. Aussi, elle oriente les usagers vers les services compétents au cas où ce pourquoi nous sommes saisis n'est pas de notre compétence. Aussi, nous informons les populations sur les procédures judiciaires et les décisions susceptibles d'être prises dans les dossiers. C'est en quelque sorte la mission assignée aux maisons de justice.
Monsieur Eka, quelle est la mission dévolue au juge ou à un juge d'instruction?
Bon, un juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, après l'étude du dossier, doit savoir s'il est compétent ou pas. Alors, sa mission, c'est de chercher à rassembler par tous les moyens légaux les preuves de culpabilité ou de l'innocence des personnes mises en examen. Mais il y procède par des actes, par exemple des actes personnels et des actes par délégation de pouvoir. Par exemple, je parle des actes personnels.
Oui.
Les actes personnels se résument en des divers PV, des divers mandats décernés et puis des ordonnances. Les ordonnances qui sont les décisions du juge d'instruction. Le juge d'instruction ne rend pas un jugement, mais il rend une ordonnance. Donc la décision du juge d'instruction s'appelle ordonnance. Maintenant, pour les cas par délégation de pouvoir, il se peut qu'au cours de l'information, le juge d'instruction est confronté à des difficultés d'ordre technique. Alors, il aura recours à un spécialiste en la matière. Pour un cas de délégation de pouvoir, le juge d'instruction, lorsqu'il ne veut pas accomplir un acte ou bien il ne veut pas se déplacer, il peut émettre une commission rogatoire à l'intention de son collègue du ressort ou bien de hors de son ressort. Ou bien, il peut émettre une commission rogatoire pour saisir un officier de police judiciaire avec une mission d'accomplir tel ou tel acte et lui transmettre la procédure.
D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Si vous avez un mot de la fin, M. Aïka?
Oui, les autorités compétentes ont institué la maison de justice sur presque toute l'étendue du territoire national. Donc, le but, c'est de désengorger les tribunaux de petites affaires. C'est une justice rapide, comme je viens de le dire. Donc, nous convions nos compatriotes qui ont des problèmes à s'adresser aux maisons de justice pour avoir plus d'amples renseignements sur leurs devoirs et sur leurs droits.
D'accord. Merci pour ce message aussi important que vous venez alors de délivrer. Madame Toyi, un message aussi à l'endroit de la population.
Oui, merci. Comme l'a dit le médiateur, juste les convier la population à nous saisir. Nous sommes sur la nationale numéro 2 AAV Pozo Carrefour Sédif, non loin de l'hôtel résidence Madiba. Et nous sommes joignables au 91 97 77 18, 90 13 80 93 et aussi au 90 32 83 60. Merci.
Merci beaucoup, Madame Toyi Ablavi. Et dit maintenant, assistante juriste à la maison de justice de Bagida. Merci d'être passé dans cette émission.
Merci à vous.
Alors, Monsieur Aïka Folli Kofi, vous êtes médiateur, conciliateur de la maison de justice de Bagida. Merci d'être passé aussi dans cette émission.
Merci aussi.
Merci beaucoup. Alors, nous revenons en plateau pour nos débats. Et déjà, Germain Poli est là. Germain, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
On remercie Dieu, à part une petite grippe, grâce à Dieu, ça va.
La grippe, on vous dira aussi que c'est en quelque sorte la maladie du moment, avec l'harmattan qui sévit du nord du pays jusqu'au sud, bien sûr.
Oui, tout à fait, c'est même dans toute la sous-région. Il y a un vent qui apporte beaucoup de poussière. Et puis cette maladie assez ambiante qui affecte une bonne partie donc, de la population.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci pour l'invitation.
Voilà. Et Fermé Teko Agbo, bonjour.
Bonjour Pascal Le Sou, merci de m'avoir invité.
J'espère que vous allez bien.
Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu.
D'accord, c'est l'essentiel.
Oui, la semaine ça s'est bien passé avec sa grâce et nous tendons timidement et sûrement vers la nouvelle année.
Tout à fait.
Que sa grâce nous permette de rentrer dans la nouvelle année. On sait que cette année 2024 a été un peu, je dirais pas un peu, mais très éprouvante pour chacun d'entre nous, pour tout le monde. En tout cas, pour les couches moins nanties, nous demandons ce que la nouvelle année qui s'annonce déjà, dans laquelle nous allons rentrer avec la grâce de Dieu, nous soit une année prospère. Une année bénie, une année où la plupart de nos voeux se réaliseront.
D'accord. Olivier Adja, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Et je joins ma voix à celle de mon prédécesseur Sylvain Agbo.
C'est firmé plutôt.
Oui. Hein. Bon, de toutes les façons, une nouvelle année, un nouveau baptême, ça aussi, ça peut arriver.
Mais vous n'êtes pas donc, un prêtre.
En devenir peut-être.
Donc, pour souhaiter de joyeuses fêtes et puis une année prospère pour nous tous et que la grâce de Dieu nous accompagne.
Que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Je voudrais quand même qu'on commence cette émission avec cette information, surtout cet arrêté hein, du ministère des ministères alors de transport et aussi de la sécurité civile bien sûr. Et c'est par rapport à la limite maximale de vitesse alors sur ou la vitesse maximale sur la voie publique et, qui est désormais limitée et là. Selon l'arrêté, la vitesse maximale autorisée en zone urbaine ou agglomération et en rase campagne hors agglomération pour les véhicules de transport public ou privé de passagers sont fixés à 50 km par heure pour toutes les catégories alors de transport public ou privé de passagers, 100 km par heure pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes. À l'exception alors des taxis en rase, campagne, hors agglomération. Il y a également pour les véhicules transport public ou privé de marchandises transportant des produits inflammables ou autres matières dangereuses, la vitesse maximale autorisée est fixée à 70 km par heure. En ce qui concerne alors les jeunes conducteurs, en agglomération, la vitesse est limitée à 40 km par heure contre 80 km par heure en rase, campagne ou hors agglomération. Alors, Germain, déjà, on sait que quand on cite les infractions qui amènent souvent même d'ailleurs à des accidents, on voit quand même qu'il y a l'excès de vitesse. Et cette proposition, cet arrêté hein, sorti par les deux ministères, je pense quand même que c'est pour régler un problème.
Oui, il faut saluer la sortie de cet arrêté-là, surtout qu'il intervient à un moment où on voit de plus en plus d'accidents sur nos routes en fin d'année. Il y a une certaine excitation, il y a une certaine perte de contrôle, il y a aussi l'alcool. qui fait que beaucoup d'usagers de la route, surtout ceux qui sont dans des voitures, ça donne à des excès de vitesse. Et comme vous l'avez dit, on sait que l'excès de vitesse est l'une des principales causes, en plus de la conduite en état d'ivresse et éventuellement l'état du véhicule, sont entre autres les principales causes des accidents. Alors quand vous faites la vitesse et il y a un obstacle devant ou il y a un problème, c'est assez difficile de pouvoir freiner et d'immobiliser le véhicule. Et on est tous conscients de cela, mais malheureusement, cette règle n'est pas souvent respectée. Et les deux ministres font bien de sortir cet arrêté en attendant que les radars soient effectifs sur nos routes pour que les policiers ne soient pas obligés de se disputer avec des conducteurs qui peut-être vont prétendre n'être pas aller à la vitesse non autorisée. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a longtemps que cette mesure-là est appliquée, en plus du port de ceinture aussi, avec l'arrivée des radars qui ont été déjà expérimentés sur certaines voies, notamment dans la capitale. Donc je crois que cette mesure-là va connaître une application plus efficace. Et sûr et certain que lors des récurrents bilans qui ont lieu au ministère de la Sécurité tous les 6 mois, en tout cas cette année on n'a pas encore eu de bilan sur la situation sécuritaire.
Vous voulez parler alors du bilan semestriel.
Voilà, semestriel. Et on espère que cette mesure-là va contribuer à la baisse des cas d'accidents et surtout des conséquences de ces accidents-là sur nos routes.
D'accord. Alors, oui, Fibin, c'est vrai que on a connu d'abord l'opération Caligou, l'opération qui permet cette sécurité au-delà même d'ailleurs de la sécurité routière. Il y a la sécurité enfin concernant la criminalité et aussi et la sécurité individuelle et la sécurité humaine en général. Alors, là, on pourra dire que avec également cette question de limite, de vitesse maximale, je pense quand même que c'est un pas.
Non, ce n'est pas une question de pas. Je pense que c'est la marque du nouveau ministre. L'opération Caligou, par exemple, on n'en a jamais entendu parler, à moins que je sois sous-informé. Mais tout ce que vous venez de déballer, c'est la marque du nouveau ministre. Il essaie d'apporter.
Mais au temps de son prédécesseur, il y avait également une opération comme cela et en fin de d'année. Hein,
oui, oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est le prédécesseur général Yac. Oui. Il aussi, lui aussi, il faisait ce qu'il pouvait pour maintenir la sécurité ou pour appeler les Togolais à plus de prudence et à plus de sécurité. Et c'est ce que nous constatons aussi avec le nouveau ministre. Bon, au-delà de tout ça, c'est le bien-être de la population, c'est la sécurité de la population. Mais revient à la population de prendre en considération tout cela, tout ce qui est déballé et tous les arrêtés que les ministres concernés prennent en leur faveur. Parce qu'il ne sert à rien de fêter et de ne pas se réveiller le lendemain. Ce qu'on demande, c'est la sécurité. Ce qu'on demande, c'est la prudence. On appelle tout le monde à plus de prudence, surtout à partir d'aujourd'hui, à partir de ce week-end. La fête commence à partir de ce week-end. Donc, qu'on ne voit pas assez, qu'on mange modérément et qu'on s'amuse modérément.
D'accord. Olivier, c'est vrai que quand on prend aujourd'hui les accidents de la route, on constate qu'il y a souvent cette question de vitesse ou l'excès de vitesse. Là, est-ce que finalement, il n'y aura pas une prise de conscience plutôt alors de l'usager de la route?
Bien sûr. Je crois qu'on ne cessera jamais de le dire que c'est l'usager qui est la première personne qui veille sur sa sécurité, et donc les forces de l'ordre et donc les autres dispositifs qui sont installés viendront après. Lorsque vous êtes usager au volant de votre véhicule, vous ne respectez pas le code de la route, vous ne respectez pas les autres usagers de la route, vous ne respectez rien, il va de soi que vous vous retrouviez dans des situations donc graves. D'accord, donc c'est la première étape. L'autre étape, c'est j'aimerais quand même revenir sur les dispositions qui sont prises ces derniers temps par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour assurer en tout cas un semblant de sécurité sur nos routes. Et donc, on annonce ces dispositifs qui sont appelés des radars, voilà, donc, pour essayer de surveiller la vitesse sur nos routes. Il y a la limitation de la vitesse en agglomération et aussi en race campagne. Et il y a plein d'autres, en tout cas, dispositions qui sont prises, comme l'opération Kiligou en période de fête, etc. Donc, ce sont des mesures qui sont importantes, qui rassurent d'abord nous, les citoyens, que voilà, il y a des choses qui sont faites pour nous assurer notre propre sécurité. D'accord? Mais il faut peut-être aller au-delà de ces appréciations pour se poser la question de savoir quels sont les moyens dont dispose le ministre pour mettre en application ces dispositions. J'aurais bien aimé lui-même le rencontrer pour lui poser la question. On m'a toujours dit, au Togo, nous avons de belles...
Et quand vous parlez des moyens, il y a déjà les troupes, il y a les forces de l'ordre également. Ces moyens humains sont à sa disposition.
Non, je crois que c'est insuffisant. Tu sais, nous avons parlé ici, on nous avait annoncé, je sais pas, les éthylomètres, c'est ça, non?
Oui.
Les éthylomètres. Voilà, entre autres, et à grand renfort de communication. Mais à la fin, je ne sais pas si les alcooltests sont devenus, je ne sais pas, des verres où on boit dedans ou comment, mais ça a disparu de la circulation.
Même quand on prend les radars en question.
Oui, les radars, on ne sait pas pour la première fois qu'on nous annonce les radars. Donc, je crois que les intentions sont bonnes, mais leur faisabilité souffre de beaucoup de limites. Et là, ça pose la question même de la confiance d'abord de l'État, de la parole de l'État, ça c'est un. De deux, ça pose aussi la question de, comment on appelle ça, de l'autorité de l'État, parce que je vais ouvrir une parenthèse sur la question de la grille et des transports urbains, interurbains qu'on a.
Voilà.
Donc, mais moi, j'ai fait un voyage la dernière fois sur Kara, et bien, les prix n'ont pas changé. Après deux ou trois semaines, les gens, de façon, voilà, donc, ça va, désinvolte, continuent par imposer les anciens prix. Et même des gens de l'État, les fonctionnaires du gouvernement qui veulent prendre des bus, payent, peut-être même celui qui a pris cette grille-là, même est venu payer l'ancien prix pour prendre le transport. Mais si on est aussi laxiste devant des décisions, je me pose la question, comment le citoyen lambda peut d'abord avoir confiance en l'État et peut aussi se soumettre demain à d'autres décisions de l'État? On va dire non, que quand on prend des décisions, on ne les applique pas. On n'a pas de suivi ni de suite. D'accord? Donc voilà, c'est pourquoi je me demande quels moyens le ministre dispose pour pouvoir mettre en application les annonces qu'il a faites.
D'accord, c'est une question que vous vous posez.
Absolument.
Voilà. Alors, Germain, on va quitter le sujet. On s'intéresse maintenant à un autre sujet. Le mardi dernier, ça a été annoncé que pour ce qui concerne la vie chère et tout, il y a le chef de l'État qui octroie 60 000 francs aux fonctionnaires comme prime, et non seulement les fonctionnaires, mais il y a aussi des enseignants confessionnels et aussi les retraités. Alors, comment vous avez accueilli cette information?
Bon, c'est une bonne nouvelle, même si nous ne sommes pas concernés, étant de la presse, étant des travailleurs indépendants, nous ne sommes pas concernés, et nous pensons en tout cas, et quand on écoute un peu les bénéficiaires donc de ces gestes-là, ils apprécient énormément. Vous savez, avant ça, il y a eu cette réduction qui n'est pas totalement grande, mais sur le carburant, les gens appréciaient timidement. Aujourd'hui, il y a un autre palier qui a été franchi un peu dans le choix du gouvernement, donc d'alléger un peu la souffrance donc des Togolais en rapport avec la cherté de la vie qui devient un phénomène mondial. Et donc, c'est des gestes à apprécier. C'est apprécié, c'est une bonne chose quand on sait que déjà il y a assez de retraités, les fonctionnaires de l'État Ils sont là, les enseignants surtout sont c'est le lot le plus important des travailleurs de l'État. Et donc là, ça a touché un peu le confessionnel. On sait que d'habitude, l'État accorde des aides à ces écoles privées et confessionnelles, mais quand les enseignants sont directement touchés, c'est une bonne chose. Maintenant, il aurait aussi fallu que d'autres mesures soient prises plus globalement. On a vu un peu l'effort qui a été fait pour demander aussi une baisse sur le prix de l'huile. Voilà, donc c'est que ce geste-là aille un peu au-delà des catégories pour aller un peu plus, beaucoup plus sur les produits de première nécessité. On a vu un peu sur le carburant, un peu sur l'huile, il y a le riz, un certain nombre de choses sur lesquelles l'État devrait agir. Et après, c'est ce que Olivier soulevait tout à l'heure, c'est la capacité aussi de l'État à faire respecter ces mesures qui sont prises, surtout en ce qui concerne les prix sur les marchés. Il y a une direction du contrôle des prix qui n'est pas très efficace. Il y a la population aussi qui ne contribue pas de façon civique à faire respecter ces mesures-là, parce que quand vous allez pour acheter, Olivier parlait tout à l'heure du prix du transport, et quand vous allez, on vous dit le prix n'a pas changé, vous pouvez contester. Et si vous êtes nombreux à contester...
Ou d'autres disent même d'ailleurs d'aller contacter alors le gouvernement ou d'aller prendre le véhicule du gouvernement, et ça c'est plutôt alors des actes inciviques ou des propos inciviques.
Oui, non, je crois qu'on peut contester un peu. Pour contester, même si pour
finir, vous êtes dans le besoin,
même si pour finir vous montez, vous aurez contesté. Et ceux-là qui sont au niveau du bus, c'est pas eux qui décident, ce sont les propriétaires. Mais eux, ils iront rapporter que les passagers exigent de plus en plus l'application dans de ces mesures-là. Mais après, quand on ne conteste pas et quand on paie facilement, mais personne ne modifie le prix parce qu'on se dit, bon, ceux-là qui sont même concernés...
Et peut-être on pense que quand on conteste, même ça ne va rien donner.
Mais il faut contester. En fait, vous savez, je donne un exemple la dernière fois quand un de nos confrères a emporté un procès contre la HAC, par exemple. Oui. Mais vous aurez des médias qui vont dire, non, on ne va pas porter plainte parce que ça ne va rien donner. Mais il a porté plainte. Il a gagné. Donc, c'est quand vous avez un problème avec l'administration, vous dites non, si je porte plainte, le tribunal administratif au Togo, ça ne marche pas, ça ne va rien donner. Mais porte plainte. Il faut le faire. Ça, c'est notre boulot en tant que citoyen. Même si vous dites, mais on a diminué le prix, il faut diminuer, on ne le fait pas. Vous êtes dans le besoin. Vous prenez quand même, vous payez, mais celui à qui vous êtes adressé, si plusieurs personnes se plaignent, il est obligé de rendre compte pour dire à ses patrons, ah, nos passagers, on risque de commencer par perdre des passagers parce qu'ils contestent, même si le monde... Il faut aussi que les citoyens qui sont concernés par ce...
Mais il faut que ça soit un élan aussi collectif.
Oui, mais individuellement déjà, il faut que les gens le fassent. Maintenant, on a des associations de consommateurs qui ont ce rôle-là. Et ils peuvent mettre la pression également. Donc, je crois qu'il faut le faire. Après, le gouvernement ne sera le même. Aller dire après, mais le gouvernement dérange les gens, c'est chaud, ils disent de baisser.
C'est le gouvernement qui a pris la décision. Comment on va dire qu'il dirait encore? C'est le gouvernement qui a pris la décision.
Quand le gouvernement va suivre l'application de façon peut-être musclée, on dira non.
D'accord. Oui, mais c'est vrai que quand décision a été prise pour octroyer des primes aux fonctionnaires et autres, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a des commentaires, d'aucuns se posaient la question de savoir, et les autres, par exemple, quand vous lisez même d'ailleurs le journal Le Canard Indépendant, et déjà ce matin, Le Canard Indépendant titre à sa une sociale, prime spéciale de fin d'année pour les fonctionnaires et après. Alors, et c'est une question que le journal se pose, le journal s'interroge, mais et finalement, on doit se poser la question de savoir, mais est-ce que les autres aussi ne sont pas des Togolais?
Oui, les eaux sont des Togolais, mais l'État trouve cher des mécanismes, parce que l'État se dit peut-être que 8 millions d'habitants accordés, c'est 8 millions nous sommes.
Oui, oui, plus de 8 millions.
Plus de 8 millions accordés sur 60 000 à 8 millions de Togolais, ça va être un peu difficile pour l'État. Donc l'État cherche un peu les catégories, c'est le moyen le plus facile, oui, je dirais le plus facile que l'État ait pu trouver. Mais moi, c'est des mesures qui m'impressionnent, moi. Pas impressionnent, c'est pas le terme approprié, je cherche. C'est qui m'intéresse. Qui me plaise parce que vous avez 7 milliards de francs, c'est pas qu'on injecte dans le circuit économique du pays. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Ça va permettre un peu au pouvoir d'achat de connaître une petite hausse de 0,01%. C'est quelque chose. Ben, et après, moi, pourquoi ne pas maintenir cela sur le salaire des fonctionnaires? C'est-à-dire, à partir du 1er janvier, si tu as 300 000 francs dans la fonction publique, ça veut dire que tu auras 360 000. Si tu as 100 000, donc ça veut dire que tu auras 160 000. Pourquoi ne pas maintenir ça comme ça? Donc, si on maintient ça comme ça, ça nous permettra d'avoir un pouvoir d'achat un peu acceptable. Et le confessionnel aussi, bon, à part le confessionnel, on cherche toutes les écoles qui sont en difficulté. Parce que nous avons des frères qui sont professeurs ou enseignants dans des écoles, mais qui sont maigrement payés. Alors, pourquoi ne pas faire une sélection de toutes ces écoles-là, à part le confectionnel, et voir comment on peut les aider. C'est-à-dire, ah, on se dit chaque année, peut-être on va injecter peut-être 10 milliards, ou bon, je dis n'importe quoi, ou on injecte 20 milliards dans l'enseignement privé. C'est une manière de faire tourner l'économie, c'est une manière de permettre à tout le monde d'avoir un pouvoir d'achat un peu conséquent. C'est, en fait, au-delà de c'est l'État qui gagne, parce que c'est l'État qui va calculer la croissance. Ce que le gouvernement vient de faire, ça va impacter la croissance. La croissance, je le dis tout le temps pour tous ceux qui nous écoutent, c'est l'investissement et la consommation. C'est-à-dire, on crée de l'emploi, les gens viennent, ils travaillent, ils ont de l'argent, ils ont un pouvoir d'achat. Ils peuvent aller dans les marchés, pour consommer. Et au final, quand on va calculer la croissance, en fin d'année, on va dire, oui, l'État, la croissance a grimpé un peu. Aujourd'hui, ce que nous visons, c'est une croissance à deux chiffres. Bon, les pays occidentaux, ils sont toujours dans la croissance à un chiffre parce qu'ils sont à un niveau extraordinaire. Mais pour nous, Africains, on veut avoir atteindre 9%, 10% pour être un peu accepté. Avec les chiffres internationaux macroéconomiques. Pourquoi ne pas chercher tous les secteurs en difficulté? Injecter un peu d'argent. Si on n'a pas d'argent, on peut aller chercher l'argent sur le marché financier international. C'est-à-dire, on prend par exemple l'artisanat. Comment on peut rehausser ce secteur-là? On prend un peu la boulangerie. On prend des secteurs qui sont en difficulté. Et on voit comment on peut créer de la richesse dans ce domaine-là. Pour permettre à tout le monde d'avoir un pouvoir d'achat. On a dit ici, dans ce pays, qu'il y a des choses que nous n'avons pas au Togo. Nous n'avons plus tellement au Togo. On n'a plus d'événements. C'est-à-dire, dans chacun de ces secteurs, que les ministres réfléchissent à comment on peut injecter de l'argent dans ces secteurs-là pour faire flamber un peu l'économie du pays. C'est comme ça qu'on crée de la richesse. Et comme ça, l'argent est là, mais il faut qu'on réfléchisse à comment on peut faire tourner l'argent. L'État, c'est l'État qui gagne après tout. Prenez ces 60 000 là. Vous croyez que quoi? L'État va gagner dedans. Celui-là qui a 60 000, il va aller prendre de l'essence, il va aller au marché. Il y a les petites taxes, les petits impôts qu'on paie directement. Donc, une partie revient indubitablement au trésor. Alors, moi, ce que je demande, c'est qu'on cible tous les secteurs. Là. C'est comme ça on peut évoluer. Il n'y a plus tellement d'événements. Qu'on crée des événements partout, qu'on crée des concours. Bon, je ne dis pas concours officiel. Moi, je suivais une émission sur une chaîne internationale où on crée un concours dans un pays pour les boulangers. Pour les artisans, pour créer des concours, pour tous les secteurs les plus minimes ou qui ne sont pas trop favorisés. On crée de petits concours, on crée des événements. C'est une manière de faire circuler l'argent. Et on cherche l'État, aide à chercher des partenaires pour ces événements-là. Ça nous permettra d'avoir de l'argent. On dit oui, la vie est chère. C'est parce qu'en réalité, l'argent ne circule pas au Togo. Oh, il y avait 7 milliards, quelque part. 7 milliards, pourquoi on ne l'a pas sorti un peu plus tôt? Donc, à l'avenir, moi je souhaiterais que ceux-là, qui ont déjà les 60 000 ans, à partir de janvier, que les 60 000 soient maintenus sur leur salaire. Et ça fera du bien au peuple togolais.
D'accord. Alors, oui, mais Olivier, est-ce que d'une manière ou d'une autre, Firmin n'a pas raison, qu'on crée plutôt alors des richesses partout et que le pouvoir d'achat soit élevé?
Oui, bien sûr, il a raison, parce que, vous savez, lorsqu'on injecte de l'argent dans l'économie, ça redynamise l'économie. Mmh. Ça, c'est une évidence. Bien sûr, ça, les gens croient que c'est de l'argent jeté par la fenêtre ou d'autres exigent que eux aussi, ils doivent avoir part. C'est vrai, nous sommes tous des Togolais et on vous dira donc que celui qui a des jumeaux, bien celle donc qui a des jumeaux doit savoir comment se coucher pour que tous les enfants aient part donc au sein maternel. Ça, c'est vrai. D'accord. Nous, nous sommes Togolais aussi. Nous participons à l'économie togolaise. Et mais ne sommes pas ni dans l'administration publique, ni dans l'enseignement confessionnel, ni nous sommes des retraités. Voilà, donc, inscrits sur le registre de la caisse de retraite. Donc, comment est-ce qu'on fera de nous? C'est vrai, hier, dans la soirée, le gouvernement a annoncé, voilà, donc, penser aussi aux retraités de la fonction, pardon, du privé. D'accord, c'est une bonne chose. Mais essentiellement, je crois que c'est une stratégie pour redynamiser la consommation. Parce que, en cette fin d'année, tout fonctionnaire qui a de son salaire, 90%, voire moins, vont entrer sur les marchés. Et sur ces marchés, c'est nos parents, c'est nous-mêmes, c'est nos soeurs, c'est nos frères qui vendent. Donc, il y aura quand même, l'argent va tourner, ça c'est sûr. Et c'est pourquoi nous disons que il faut revaloriser les salaires, il faut donc injecter de l'argent dans le circuit économique afin que l'argent puisse donc tourner et ça va se retrouver dans la poche de chacun de nous des Togolais. Je crois que c'est le calcul. Il y a 60 000 à peu près de fonctionnaires, si je me trompe. Donc, ces 60 000 fonctionnaires et les retraités et les enseignants vont acheter, vont mettre de l'argent sur les marchés. Et l'argent, cet argent, ces 60 000 francs, et chaque Togolais aura une partie dans sa poche, de toutes les façons. D'accord? L'État peut mieux faire. Mais, déjà, c'est un très bon début. Parce que le gouvernement, ni le chef de l'État, n'était obligé de prendre cette décision. Les gens vous diront, non, que c'est l'agent des Togolais. Mais l'agent des Togolais, il y a un ordonnateur. C'est lui qui ordonne la dépense. Il n'était pas obligé de dire, on donne 60 000 francs aux fonctionnaires. Il y a une année même, cette gratification était un prêt.
Effectivement.
Était un prêt. Cette année, c'est de façon donc gracieuse.
C'est une prime accordée. C'est,
donc, c'est déjà un très bon début. Moi, je dirais plutôt que, et voilà, donc, pour l'avenir, que l'État pense aussi à comment, comme le Chimel a dit, que l'État pense aussi aux autres couches de la société. Parce que les fonctionnaires ne représentent peut-être que 1% seulement des Togolais. Nous sommes 8 millions, ils sont 60 000 à peu près. Donc, ce n'est pas grand, mais ce n'est pas négligeable non plus.
D'accord.
Comme je l'ai dit, non, je ne vais pas. Il y a un phénomène sur lequel j'aimerais que vous attirez l'attention.
Rapidement.
Nous l'avons dit dans notre journal d'aujourd'hui, la shrinkflation. La shrinkflation, c'est un phénomène qui est en vogue. Mais au Togo, les gens le font de façon exagérée et cynique. C'est le fait de diminuer soit la quantité d'un produit, soit sa qualité en maintenant le prix. Donc, si bien que le produit, vous achetez par exemple un produit qui devait faire un litre, va faire peut-être moins d'un litre, mais au même prix. Donc, c'est une façon de dol ou d'augmentation de prix indirect. Puisque si on vous dit ça coûtait 100 francs, si vous achetez ça à 125, vous allez crier. On diminue la quantité de 25 sur le produit. Donc, j'ai remarqué ça sur les marchés. Hier, il y a Dadede qui donnait le témoignage que même sur les huiles que les gens achètent, ils vont avec des seringues diminuer et reprendre un litre, deux litres sur les 25 litres. Donc, il y a des stratégies et il y a des entreprises dont je ne vais pas citer le nom parce que j'ai l'habitude d'acheter du jus chez une entreprise et c'est là-bas que j'ai constaté que la qualité du jus a diminué, la consistance du jus a diminué, mais le prix est resté le même. D'accord? Donc, cette façon de faire, je vous en prie, en cette fin d'année, il faut que les associations des consommateurs se lèvent, puisqu'on n'augmente pas les prix, mais on diminue quand même la qualité du produit. Et vous aurez remarqué ça, en tant que consommateur, nous devons tous dénoncer cela parce que ce n'est pas autorisé par la loi et ça nous pénalise. Par exemple, ceux qui font l'alimentation générale, Dadede disait aussi hier, que ça les pénalise parce que vous achetez une quantité qui n'est pas la même, vous allez vendre et vous allez toujours avoir de la dette parce que vous n'avez pas la même quantité que vous devez avoir.
D'accord. On va quitter le sujet, on s'intéresse à ce sujet évoqué dans mes mots introductifs. Je veux bien parler alors du report des sénatoriales. On va s'intéresser bien sûr au sujet. C'est vrai, en Conseil des ministres, ça a été annoncé hier, Germain. Et c'est vrai que selon les informations, cette adoption alors du test sur le report des sénatoriales fait suite à la demande formulée quelques jours plus tôt par le cadre permanent de concertation CPC pour un report de la date limite alors de dépôt des candidatures et de la date du scrutin. Et ceci en vue de permettre aux acteurs politiques de mieux s'organiser pour participer à ces élections qui se tiennent pour la première fois dans notre pays, le Togo. Alors, quand on fouille bien, est-ce qu'on, au-delà alors de ces raisons données, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'y cache?
Non, je pense pas. Il n'y a pas quelque chose qui s'y cache. Il y a déjà une inquiétude généralisée, surtout au sein de l'opposition, qui, au regard du corps électoral, estime qu'elle ne pourra pas remporter beaucoup de sièges. Ça va être vraiment difficile de gagner des sièges au Sénat. Et il y a une proposition dont on a parlé ici, qui émanait du maître Tshisekedi Traoré, qui avait souhaité que le chef de l'État, dans la part de nomination qu'il a au niveau du Sénat, puisse diversifier, faire en sorte que quelques opposants soient donc nommés par ce truchement. Mais après, la réalité, c'est qu'il y a toujours moyen de travailler sur le terrain et pouvoir aller à cette élection. Je pense que c'est pour cela que plusieurs partis au sein du CPC ont voulu qu'il y ait un certain report pour aller battre campagne, pour aller négocier, parce qu'on l'a déjà vu au niveau des locales, où des maires, aujourd'hui certains même s'érigent en contestataires, mais qui ont été élus maires dans leur circonscription grâce au vote d'Unir. On a un exemple comme le maire Jean-Pierre Favre, par exemple. Il y a plusieurs maires de l'opposition qui ont pu être des maires parce que ils avaient reçu le vote des conseillers municipaux de d'Unir. Donc, je pense que fort de cette expérience-là, je crois qu'au niveau de l'opposition, on se dit, mais pourquoi aller de façon résignée ou vouloir boycotter ce scrutin si une telle possibilité peut être envisageable, c'est-à-dire que est-ce qu'on ne peut pas battre campagne auprès de l'électorat majoritairement dominé par Unir, comme ça a été le cas dans les conseils municipaux, pour que certains maires de l'opposition passent, ou est-ce qu'il faut passer par la deuxième option, celle proposée par M. Tshisekedi, qui consistait à demander au chef de l'État de faire en sorte que certains opposants soient nommés. Donc après, je crois que le CPC a joué son rôle. Il y a une concertation qui a demandé au gouvernement, on souhaite un report, ce que le gouvernement a accepté, parce que justement c'est le gouvernement qui a souhaité qu'il y ait un cadre où les acteurs se réunissent. Et parlant du CPC, je crois qu'on va peut-être demander que ce CPC soit ouvert à la société civile, pourquoi pas. Peut-être que les journalistes aussi seraient heureux, par exemple, de se retrouver dans ce cadre-là pour prendre part à ces débats qui sont importants pour la vie de la nation. Donc, d'accord, ce report, à mon avis, est une bonne chose, espérant simplement que l'opposition, essentiellement, parce que c'est eux qui craignent de ne pas pouvoir remporter des sièges, donc à l'issue de cette élection-là, comprennent que, tout comme ça a été fait au niveau des locales, c'est possible quand même si on n'est pas majoritaire au niveau du corps électoral, sur la base d'un consensus, de faire en sorte que ce Sénat-là soit pluriel, qu'il y ait plusieurs courants et que les débats soient beaucoup plus constructifs.
D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors, Firmin, est-ce que ce report ne porte pas un coup à la transition, à la durée de la transition?
Oui, c'est ce qui m'inquiète, moi. C'est parce que nous avons moins de 5 mois. Et parce que on doit tout mettre en place avant le 5 mai. On n'a pas encore le président du Conseil. Il faudrait qu'on mette en place le président du Conseil s'installe d'abord avant qu'on ne mette en place le Sénat. Or, nous tendons vers le 5 mai. Si on reporte aujourd'hui, techniquement, quand est-ce qu'on va l'organiser? Parce qu'on n'a pas encore donné de date fixe.
Non.
Si on dit on va l'organiser peut-être en mars ou en avril. Oui, maintenant, on va avoir les deux tiers. Vous savez qu'en réalité, la première session du Sénat, ça va être peut-être le premier mardi du mois d'avril. Donc, avant que ce Sénat ne soit mis en place, il faudrait qu'on ait le président du Conseil. Parce qu'on peut faire les élections, on aura les deux tiers, mais on n'aura pas le Sénat. C'est-à-dire, c'est une partie du Sénat qu'on aura sous la 5e République. Maintenant, il va falloir qu'on ait le président du Conseil. Parce que c'est le président du Conseil qui va nommer le un tiers. Donc, quand est-ce qu'on va organiser les élections sénatoriales et quand est-ce qu'on va avoir le président du Conseil? Parce que ce n'est pas ce président de la République actuel qui va nommer le un tiers. Nous avons vu la loi qui est sortie, ou c'est le décret, ce qui a fait circuler là, où on nous a dit clairement que c'est le président du Conseil qui nomme le un tiers. Comment ça va se passer techniquement? Parce que si on ne fait pas attention, on va tomber dans l'illégalité. Parce qu'on nous a dit, et c'est l'article 95 qui nous parle de 12 mois. C'est-à-dire, on a 12 mois pour mettre en place toutes les institutions de la 5e République. Alors, si on n'arrive pas à le faire avant le 6 mai, donc on tombe dans l'illégalité. On tombe dans un vide. À partir du 6 mai, on aura quoi? À partir du 6 mai, bien sûr, la Constitution dit, l'article 97 dit qu'en réalité, l'actuel président de la République va perdre ses pouvoirs si on arrive à avoir le président du Conseil et le nouveau président de la République. Maintenant, si après le 6 mai, on n'a pas le président du Conseil, on n'a pas le président de la République, on va tomber dans quoi? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Donc, c'est techniquement, moi, je pense que c'est un peu compliqué. Soit, moi, je demanderais humblement, en toute humilité, au président de la République de tout faire pour tout organiser avant avril ou en avril. Donc, à partir d'avril, déjà, quand on a le président du Conseil, on peut facilement mettre en place la nouvelle HAC, on peut facilement mettre en place le Conseil économique et social et environnemental, on peut facilement mettre en place le médiateur le protecteur du citoyen, on peut facilement mettre en place le Conseil d'État, la Cour de cassation et la nouvelle APLUSIA. Parce qu'après le 6 mai, ça va être difficile. Donc, maintenant, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais faire observer, est-ce que c'est l'État qui a des difficultés pour organiser les élections ou c'est l'opposition? Jamais a dit quelque chose de brillant tout à l'heure. Est-ce que en réalité l'opposition...
Mais l'opposition n'organise pas, c'est l'État qui organise.
Oui, bon, le pouvoir veut montrer une certaine démocratie en disant que oui, qu'il est à l'écoute des propositions des acteurs de l'opposition. C'est une très bonne chose sur le plan de la démocratie. Mais est-ce que maintenant qui va profiter de cette élection? N'oublions pas, nous avons calculé le corps électoral. C'est 117 maires que nous avons.
Oui.
N'est-ce pas? 117 maires. Nous avons combien de conseillers dans chaque mairie? Mais ça dépend un peu. Non, on a 117 maires et 179 conseillers régionaux. Donc les deux, ça va faire le corps électoral, banalement. Pour convaincre ce corps électoral, ces centaines de corps électoraux, est-ce que c'est difficile pour l'opposition? Je ne pense pas. Mais quoi que l'opposition puisse faire, moi on voit un peu ce que UNI fait. UNI va vouloir tout rafler. Moi, je pense que...
Non, mais attends, c'est parce que, déjà, on pense que ce corps électoral est en majorité composé, même d'ailleurs, du parti au pouvoir.
Oui, mais bien sûr. Maintenant, l'opposition va aller convaincre qui? Les gars d'UNI? Nous, on veut tout prendre.
Mais ça a été fait dans le conseil.
Oui, alors c'est là où je voulais venir. Oui. Moi, j'ai suivi votre développement, c'est brillant. Alors, moi, c'est là où l'idée là m'est venue. Donc, moi, je pense qu'en réalité, ce temps-là dont on a besoin, ce temps de report, c'est peut-être soit le chef de l'État aurait dit ou va dire à ces gars du Nil, non, ne prenez pas tout. Ou c'est ce temps va permettre à l'opposition de bien faire ces négociations. C'est-à-dire, il va négocier avec l'UNI, avec le parti, en disant que, bon, nous, on va faire campagne, mais s'il vous plaît, lors des élections, il faut voter aussi pour nous. Sinon, techniquement, là, si c'est pour dire, pour se préparer, pour aller se laisser convaincre, ou pour aller convaincre les gars du Nil, ce n'est pas possible.
D'accord.
Alors, c'est un temps de négociation.
Olivier, est-ce que finalement, ce report que nous avons écouté même hier, qui a été annoncé hier, est-ce que ça ne reflète pas une difficulté dans l'organisation de ces élections?
Oui, bien sûr, ça peut être l'expression d'une difficulté qui est rencontrée dans l'organisation de cette élection, ou ça peut aussi être l'expression d'une ouverture donc de l'État, du gouvernement, de la CENI, je ne sais pas qui, mais voilà, qui a écouté et qui veut bien faire les choses. Parce que c'est le CPC et ses conclusions qui ont demandé à ce que, voilà, donc, on puisse faire un report ou un réaménagement de calendrier. Parce que je crois que c'est cette expression qui a plus.
Oui, justement, c'est ce qui est utilisé, mais dans le fait, donc, c'est un report.
Oui, c'est un report, mais je crois que Firmin l'a bien expliqué. Il y a un délai donc, pour pouvoir mettre en place les institutions de la 5e République. Et ce délai butoir, c'est en mai 2025. Donc, on ne peut ne pas faire cette élection avant mai 2025. Et même, on ne peut même pas nous s'amuser à le faire en mai 2025. D'accord ? Puisque après l'installation des sénateurs, il y a un processus qui va suivre. Mm-hmm. Et on ne peut pas le faire donc, en mai. Donc, il faut seulement comprendre que ce report va peut-être donc, être de quelques jours, voire quelques semaines. Mais je ne vois pas que ça puisse durer plusieurs mois. Parce que
Même plusieurs semaines.
Non, même plusieurs semaines, ça serait. Donc, c'est pourquoi le terme réaménagement de calendrier sied mieux à cela pour pouvoir répondre aux préoccupations des membres donc, du CPC et pouvoir voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais je crois que, on l'a dit, les jeux sont déjà faits. Qu'est-ce qu'on peut. Puisque ce n'est pas une élection ordinaire, ce sont des grands électeurs qui vont voter, les conseillers régionaux. En plus, les conseillers municipaux, donc ils sont combien donc, au Togo? Ils ne sont pas plus de, je sais pas, plus de 500 ou 1000 à peu près. Donc, c'est auprès de ces 1000-là qu'il faut aller faire la campagne. Ce n'est pas vers moi et M. Pouli, parce qu'on n'a pas ce pouvoir d'aller voter. Donc, en réalité, moi, j'estime que c'est l'élection la plus simple que nous pouvons avoir. Le corps électoral n'est pas composé de 3 millions de Togolais ni de 100 millions de Togolais. C'est à peu près un millier de personnes donc vous pouvez aller voir à Dapan, quand vous allez vous connaissez le nombre de personnes là-bas, le nombre de conseillers municipaux, de conseillers régionaux. Donc ça va aller vite, je crois, pour que les institutions de la 5e République puissent être installées.
D'accord, chers confrères, nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat et donner la parole à nos auditeurs, puisqu'il est midi passé à l'heure de quelques minutes. Et nous allons leur donner la parole sur le 90 86 35 35 91 36 63 115, les deux numéros sur lesquels ils peuvent réagir, également sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 ou 91 36 63 75. C'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir et également sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Sur ce numéro, vous pouvez nous écrire. C'est notre numéro WhatsApp, bien évidemment, 90 86 35 35. Premier auditeur en ligne. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, monsieur Gado.
Bonjour, Plateau.
Comment vous allez?
Oui, ça va très bien.
D'accord, allez-y.
Bon, moi, je vais demander à notre ami Firmin, là, pourquoi le Togo ne peut pas une CENI technique comme au Ghana? Vous savez, le Togo, le problème, c'est les élections. Hein. Moi, je vous le dis, c'est les élections. Au Sénégal, on a fait des élections, pas de problème. Au Ghana, pas de problème. Togo, chaque élection, c'est problème. Pourquoi on ne peut pas créer une CENI technique? Vous dites que le peuple togolais n'aime pas l'opposition. C'est faux. Tu m'avais appelé ça sur la radio, mais c'est faux. C'est parce que les gens ne veulent pas aller voter, parce que c'est toujours le même résultat. Créer une CENI technique. Vous allez voir, tu vas faire des élections. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, monsieur Gado, pour votre intervention 90, 86, 35, 35. 91, 36, 63, 75. C'est sur ce numéro que vous pouvez alors appeler. Allô?
Patrick, bonjour.
Bonjour, Basile. Comment vous allez?
Ouais, je vais comme togolaisement bien.
D'accord, allez-y.
Non, je salue Firmin, Germain, et puis les camarades là. Comment on l'appelle?
C'est Olivier Adja.
L'homme de Boto là.
C'est bon. Olivier Adja.
Oui, voilà.
Il n'est pas de Boto.
Ah. Non, je crois qu'il est de Boto.
Non, allez-y, sur votre.
Bon, vous leur dites que. Timé a bien parlé et il a tout gâté en même temps. Quand il a dit que ces primes spéciales dont il est tellement question, pourquoi le chef de l'État ne va pas laisser ça aux travailleurs, aux pensionnaires et autres. Il a, moi, je ne sais pas s'il a, je n'ai même pas s'il a de bonnes paroles dans sa bouche. Mais pourquoi eh bien il dit maintenant que le peuple là n'aime pas l'opposition dans le pays là. Lui-même, il est là-bas. Il ne sait pas ce que l'État fait, le Parti Uni fait, pour que nous, on n'ait pas la démocratie au Togo. Ça fait un lien, il veut, on ne veut pas la sénate, des choses comme ça. Il ne faut pas. C'est comme moi j'appelle le blasphème. Ils sont en train de blasphémer. Mais le blasphème, c'est pour ceux qui sont chrétiens. Quand il vient, toujours il dit ça, il n'a qu'à savoir qu'il a fait de poser un masque blasphématoire.
Ok, Basile, merci Basile pour votre intervention. Salé. Allô. Allô, bonjour Madame Essi.
Oui,
comment vous allez?
Oui, bon.
D'accord, allez-y.
Je vous écoute de loin. Et puis, je voudrais vous dire que d'abord, faire un coucou à Olu, à tout le monde là-bas.
Merci.
Et puis, je vous dis que nous avons les amis, quoi. Quand vous venez débattre là-bas, tout ça là, et puis moi je vais dire à mon frère Firmin de se calmer parce que nous que là on y a des nouveaux vélés de nous, c'est depuis 63 qu'on est dans cette galère là. Hein? Et tu n'as pas justifié quoi que ce soit, tu n'as rien à dire. Appelez le président pour qu'il vienne nous expliquer ce qu'il est en train de nous faire, ce qu'il veut quoi. Ils sont là depuis 63 et ça s'est confirmé en 2010, 2005. Et maintenant, qu'est-ce que les gens veulent nous expliquer? Si ce n'est pas les personnes eux-mêmes, hein, c'est les intéressés qui devraient venir nous expliquer. Je vous dis que la TDE nous arnaque, tout nous arnaque, on nous appauvrit. Les gens se sont associés pour nous appauvrir dans le pays. Et ce n'est pas normal. Moi, je ne suis pas d'accord. Et la CET nous envoie deux fois la facture par mois. La TDE n'est pas en reste. 5 000 francs, le mois qui suit, on t'envoie une facture de 35 000, dans 35 communes. Ah non, hein? On n'est pas la vache à l'air. Déjà qu'ils nous ont, on n'a pas de travail, personne ne travaille, c'est ça qui nous... Hein? On a des sérieux problèmes.
D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci, oui, merci. Alors, oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, votre nom, c'est...
C'est Simon.
Pardon?
C'est Simon, bon... mon intervention n'est pas relative au sujet traité, mais c'est un truc d'alarme que je voulais lancer, si vous permettez.
Oui, mais rapidement. Votre nom, c'est Firmin.
Depuis mardi, on a venu curer la voie qui mène de cours d'appel vers école la source. Et depuis mardi, la boue, les déchets, tout ça, là, c'est resté sur la voie jusqu'à ce jour. En ce temps de choléra, là, je me demande si ça arrive. Ça reste sur le goudron jusqu'à ce jour.
D'accord. Ok, merci pour l'interpellation. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour. Comment vous allez?
Ça va pas, la grâce. C'est Évangéliste Senghor.
Non.
Ah, d'accord.
Il appelle des Chédier.
Ah, d'accord.
Chédier, David. Ouais.
Votre nom, c'est...
Germain. Ouais.
D'accord, allez-y.
Oui. Je vous remercie là-bas, que Dieu vous garde et vous bénisse.
Merci beaucoup.
Tout le travail que vous abattez chez nous, Togo, ici, là, c'est très bon. Merci. Ça me donne au moins. C'est vous, à travers de vous, que vous nous informez dans certaines choses.
D'accord, merci.
Oui. Et s'il vous plaît, j'ai interpellé le chef de l'État. C'est une donnance envers les fonctionnaires. Que l'indemnité de départ, la retraite là, il n'a qu'à, dans son discours de transfert, de ça, il n'a qu'à revoir ça. Au moins 6 mois d'indemnité de départ, la retraite. Il n'a qu'à nous faire ça. Parce qu'on souffre, les Togolais souffrent, les fonctionnaires souffrent de trop. Tu vas aller à la retraite, on te donne 3 mois de salaire. Tu vas faire quoi avec ça? Et merci d'avance que 60 000 fois pour aller prêter, c'est très bon. Mais je souhaite ça aussi, ça agisse, on va, il doit élargir ça pour que les retraités, les pensions de CNSS, peuvent aussi bénéficier à ça aussi. Ce n'est pas les retraités, voilà, les retraités fonctionnels là, ce n'est pas eux seuls. Il y a les caisses de sécurité aussi, il y a des pensionnaires là-bas.
D'accord.
Il n'a qu'à élargir ça.
Okay.
Je vous remercie. Bonne émission.
Merci beaucoup, Germain.
Allô?
Nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission.
Allô, bonjour.
Allô, bonjour. Comment vous allez?
Très bien. Je salue tout le plateau. Je salue mon petit frère, celui qui est Adja.
Olivier Adja.
Olivier Adja.
Votre nom, c'est?
C'est Jean.
Jean, vous nous appelez d'où?
J'appelle Adidogomé.
Adidogomé, allez-y.
Ouais. Et tout juste pour vous dire, bon, pardon, là, si vous invitez les journalistes là, les espions là, nous écoutons pas les espions quoi. Ça veut dire, nous on est ici, nos cœurs sont. Et on se fait sur vous. Mais c'est comme il y a votre camarade qui ne sait pas ce que se passe. Aussi, il vient le tout, c'est comme. Moi, si je comprends ça, ça me lève quoi. Qu'est-ce que c'est avec la diffusion qui ne connaît pas au Togo? Hein? Tout le monde entier, on sait ce qui se passe au Togo. On gagne avant-hier en affaire, il y a aussi un problème au Sénégal, il y a aussi un problème.
Mais moi, j'en ai fait un petit. Oui, mais monsieur Jean. Oui, concrètement, vous voulez parler de quoi? Choisissez quelque chose.
Oui. Comment on appelle le journaliste là? C'est qui là? C'est ça. Allez, ça, c'est nous, le personne.
Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? J'aurais voulu que vous choisissiez même son argument pour vous apporter de contre-arguments.
Ça, c'est pas normal. Tous les radios qui disent bien, c'est comme ça.
D'accord. Alors, merci beaucoup, Monsieur Jean, pour votre intervention. J'aurais voulu que Monsieur Jean nous donne alors des arguments ou ce que soit firmé a dit et que on apporte alors des contre-arguments. C'est en cela quand même que nous ferons un débat contradictoire. Si on nous dit que non, on déclare quelque chose et que finalement vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que c'est vague. Et celui qui vous écoute à la maison ou celui-là qui n'écoutait pas l'émission et a pris en vol même d'ailleurs cette émission ne comprendrait absolument rien. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à vous tous pour votre intervention. Et maintenant, nous allons revenir en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer bien sûr l'émission de ce jour. Mais avant de donner, enfin, je l'ai fait, nous avons fait l'exercice hier et nous allons encore faire cet exercice aujourd'hui, c'est-à-dire si je vous donne la parole maintenant, vous allez choisir plutôt quelque chose, un événement de l'année. Tout au long alors de l'année, un événement qui vous a marqué et vous allez vous prononcer là-dessus, ce serait très intéressant. Alors, mais bien avant, j'ai en studio avec moi mon confrère Maurice Agbosou. Maurice, bonjour.
Oui, bonjour Pascal. Alors,
j'espère que vous allez bien.
Je vais très bien.
D'accord. Et vous avez un événement le 31 prochain et cet événement, c'est bien sous le Grand Baobab et c'est l'acte 3 de sous le Grand Baobab. Comment ça va se passer sous le Grand Baobab?
Oui, sous le Grand Baobab, c'est quoi le concept au fait? C'est une initiative de Toby Adiko Laclevi, Neuville 1er. Il est le chef quartier d'Arakwam Kouta Kolastong. Depuis son accession à la trône, en fait, au trône royal au niveau de Adakpam et Kouta Kolas, donc il a choisi donc d'être proche de sa population. Donc ce qui fait que chaque mois il décide donc de rassembler donc les habitants de sa population et discuter donc des problèmes, des maux qui minent donc au développement donc de la localité. Donc l'acte 3 c'est prévu donc sur ce 31. Et qu'est-ce qui va se passer? Je crois que pour cette édition, on aura donc à débattre, à parler à la jeunesse du fake news. Vous savez, aujourd'hui, il y a une tendance, il y a les informations qui arrivent sur nos portables, donc sur les plateformes WhatsApp. Donc, il faut partager sans toutefois connaître la source, si c'est vrai ou bien si c'est faux. Donc, il y a des spécialistes qui viendront donc édifier et donc les populations, surtout la jeunesse, sur cet aspect de choses. Également, nous allons parler, sensibiliser sur la drogue. Vous savez que c'est un milieu de la commune Golf 1, donc qui est un peu isolé et que les jeunes se donne beaucoup donc à plus de la consommation de la drogue. Donc on va sensibiliser donc pour leur faire ressortir donc les méfaits donc de la consommation donc de la drogue. Également, on va parler de la cybercriminalité. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas travailler, donc il faut peut-être anarcher par ici, par là. Mais oui, oui, il faut englober les choses, Pascal. Donc j'en fais partie du lot. Je suis de cette jeunesse là dont je parle. Donc et aussi, nous allons parler de l'extrémisme violent. Donc il y a en fait toute une activité. Mais en dehors de cela, donc il y aura donc des artistes comme Tommy X, il y a donc Setlo, il y a Paki Kenjou, il y aura également Ralicia.
C'est des artistes du moment.
Oui, Kossi Apesson, sans oublier donc Black T Igwe et MC Momo. Donc ils seront de la partie pour agrémenter donc la soirée. Donc la soirée va débuter donc dans l'enceinte du show. J'ai su l'air du terrain, donc du siège d'Abarakondi à Adapame Kouta Koulas. Donc c'est le mardi prochain à partir de 15h.
Et vous invitez tout le monde à participer à cette rencontre.
Nous invitons tout le monde, surtout la jeunesse. D'accord. Nous invitons donc la jeunesse de la commune Golf 1, des quartiers environnants, des quartiers comme Adapame, Kagome, Kanikope, Adamavo et de ces environs. Donc à ce jeune, donc à cette organisation-là, donc le mardi prochain, à partir de 15h sur le terrain de Dabalakondi.
Merci beaucoup, Maurice Agosu, d'être passé alors dans cette émission pour ces informations. Alors, je vous le disais, chers confrères, nous allons faire maintenant le dernier tour de table. Germain, un événement qui vous a marqué dans l'année 2024 avec un petit commentaire de 30 secondes. Je sais que l'exercice serait un peu difficile.
Oui, c'est très compliqué de pouvoir dire un événement qui nous a particulièrement marqué.
Ça peut être sur tous les plans, hein, politique, économique, voilà.
Mais moi, je rassemble globalement, donc l'année a été marquée par de lourdes pertes. Hein. Moi, c'est beaucoup plus ça qui m'a marqué, pas positivement, mais un peu négativement, dans plusieurs domaines, sur le plan politique, sur le plan religieux, dans notre corporation aussi.
D'accord.
Et donc, j'espère que 2025 sera une année beaucoup plus...
D'accord. Merci beaucoup, Germain. Oui.
Moi, je m'inscris aussi dans cette logique de Germain. Nous avons perdu des personnalités importantes. Dans cette année, nous avons perdu Monseigneur Philippe Fano-Coudreau, nous avons perdu Agbome Kodjo, nous avons perdu Kwasi Kloutché, nous avons perdu Monseigneur Bariga. C'est lourd pour un pays. C'est vraiment lourd. Nous continuons de les pleurer parce que tout cela que je viens d'énumérer, d'une manière ou d'une autre, il a servi ce pays. Que l'année 2025 nous apporte beaucoup plus de bonheur et de joie et que la tristesse s'éloigne de nous.
D'accord. Olivier ?
Non, je crois que le drame d'Aguazongo avec l'effondrement de la parcellaire piétonne était un drame qui a marqué profondément les Togolais. Bien sûr, aussi la question des accidents qui se multiplient depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, je crois qu'il faut prendre des précautions et le ministre de la Sécurité fait bien de prendre des décisions, mais ma question demeure, comment les appliquer?
D'accord. Merci beaucoup, Olivier Adia, directeur de publication du journal en ligne Free Press. Merci d'être passé dans cette émission. Merci, Fermet Eko Agbo, chroniqueur, bien sûr, politique et surtout. Merci pour votre intervention aussi dans cette émission. Merci, Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil. Et ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Et je tiens à vous dire merci puisque nous sommes au dernier vendredi alors de cette année 2024. Je tiens à vous dire merci pour avoir toujours répondu à nos invitations pour ce qui concerne alors l'émission Club de la Presse et aussi votre constance dans les positions que vous prenez toujours alors pour animer aussi cette émission, au-delà même d'ailleurs de cette position ou de cette constance alors de position. Je sais également que vous apportez aussi beaucoup de choses à ce public par rapport surtout à vos interventions. Nous avons décidé alors d'apporter toujours l'information à nos auditeurs et c'est ce que nous faisons avec joie au cœur. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous qui nous avez appelés, vous auditeurs. Je vous le disais déjà le 31, ce serait une émission consacrée à vous. Vous aussi, vous allez vous soumettre alors à cet exercice, c'est-à-dire vous chercherez ou vous donnerez un événement de l'année qui vous a marqué et vous ferez des commentaires et des analyses. Ce serait très intéressant. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Michel Tobé qui
était à la mise en onde. Jérôme Akouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end.